Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation IRENE. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Voilà, nous recevons à présent M. l'abbé Marco Filindungwa, docteur en philosophie et auteur de plusieurs publications sur les problèmes sociaux. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, Jolie.
Voilà, il y a eu changement de statut, vous n'êtes plus assistant, hein, comme avant.
Il faut d'abord laisser le titre là comme docteur, et encore qu'il faut, pour que je l'ai officiellement, que je puisse publier un extrait de thèse qui sera accepté par l'université, et puis bon, à partir de là, on verra, nous sommes dans le privé, et puis bon, on va voir comment l'institution va gérer ce passage d'un état à l'autre.
Oui. Voilà, nos félicitations.
Merci.
Voilà, nous parlons aujourd'hui des Congolais de l'étranger. En RDC, plusieurs familles ont souvent les regards tournés vers les frères ou parents vivant en Europe ou ailleurs. Chaque mois, des demandes d'argent pour tel ou tel autre besoin envahissent les Congolais de l'étranger. Ils ne peuvent pas satisfaire ces demandes excessives, car ils ont aussi des problèmes à résoudre. Alors, comment gérer ces flux de demandes des membres de famille restés au pays, Monsieur Lavé?
Bon, je crois que de la part de nos frères qui sont à l'étranger, qui sont d'ailleurs, à mon sens, qui ont plus bon cœur que nous-mêmes,
oui,
il y a un peu moins d'efforts à fournir que de notre propre part. De la part de nous qui sommes restés ici, parce que c'est le problème en réalité, c'est nous qui le posons, et souvent qui le posons mal et de manière assez excessif, comme vous venez de le dire tout
Pourquoi
à l'heure.
Pourquoi? Parce qu'on croit qu'à l'étranger, ils sont bien, ils ont beaucoup d'argent.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a une certaine idée de l'Europe comme ce paradis. Donc, ceux qui sont là-bas, ils sont forcément plus riches que nous, ils ont tout le moyen et tout ça. Donc, on peut leur poser des problèmes à tout moment.
Mm-hmm.
Et aussi parce que eux-mêmes, nos frères et sœurs qui sont là-bas,
ils entretiennent cette image.
Oui, ils aiment entretenir cette image. Regardez les émissions qui passent à la télé, dans toutes les chaînes de télévision, ici, à Kinshasa, par exemple, il y a au moins une émission qui parle des Congolais de l'Europe. Regardez ce qu'on dit de ses frères et sœurs, mais c'est...
Balan Poutouville.
Ah, ben oui, mais c'est des gens qui sont toujours bien
habillés,
bien habillés, oui. Ils ont une très bonne mine, ils ont une bonne santé.
Une belle voiture.
Oui, ils sont en train de se réjouir à tout moment. On ne fait que montrer des fêtes, mais...
Oui.
Et pourtant, comme si toute la réalité de leur vie n'était que
des paradis.
Oui, c'est si, mais pourtant il y a aussi des peines qui sont à côté. Donc c'est cette image-là que oui, nous avons ici, que nos frères entretiennent, et c'est à cause de cela que, bon, finalement ici, on exagère, on veut leur demander, on demande un peu trop. Alors, je recommanderais à nos frères qui sont de l'autre côté de commencer par fournir l'effort de casser ces mythes de l'Europe ou de celui qui vit en Europe comme étant un riche absolu, nécessairement. Donc, je crois que qui trouve des moyens pour casser cette image-là. Moi, je sais que quand quelqu'un prépare une visite ici au pays, et quand il est de l'autre côté, ben il commence à préparer ça un an, deux ans avant, il entasse des histoires, il ne va pas
des économies.
Oui, ouais. Donc il fait des économies et il va acheter des biens qui ne sont pas nécessairement les biens qui sont les plus coûteux. Il ne va pas dans les grands magasins, il attend les périodes de baisse des prix, il va acheter dans les magasins où on vend un peu plus cher et tout ça. Il fait tout ce tas d'histoires.
Il achète des vêtements.
Oui, des vêtements et beaucoup d'autres biens. Il y a même des autres choses qu'on reçoit. Enfin, comme de l'autre côté, par moment, on jette ceci, on jette cela. Bon, on fait un conteneur.
Ce qu'on appelle les bilocos,
oui, justement.
Des véhicules d'occasion.
Oui, donc on entasse tout cela. Et quand on envoie, quelques temps avant qu'on arrive soi-même, et que ces biens arrivent, et souvent la stratégie, ça n'arrive pas d'abord dans la famille, ça arrive quelque part après des années, et quand la personne atterrit ici à Kinshasa, bon, il commence à dissimuler pratiquement à tout le monde. Bon, ça fait bon cœur, quoi.
Oui.
J'aime la bonté de cœur de nos frères qui sont à l'étranger, c'est comme ça que je les aime beaucoup, mais avec cette bonté aussi, ils se font prendre au piège, parce que nous ne savons pas, quand ils arrivent, que ce qu'ils amènent, c'est l'économie, je ne sais pas moi, de 2, 3, 4 ans. Nous avons comme l'impression que c'est un matin qui s'est réveillé,
qu'il a acheté de l'argent
de son compte, et il a acheté tout ça. Et évidemment, quand nous avons cette impression-là, quand eux arrivent ici, eh bien, bon, finalement, il y a de raisons de venir leur poser tant de problèmes. Donc, qu'ils apprennent eux-mêmes à gérer l'image qu'ils nous passent ici. Ça, c'est de un.
Donc, ils n'ont rien, qu'ils viennent comme ça.
Simplement. Qu'ils viennent simplement, ben, bon, ça, ce sera du côté de la société. Il faut encore que quand ils arrivent simplement sur la société, que la société accepte de voir un frère
qui revient au pays après 5 ans, 10 ans.
Oui, en toute simplicité, parce qu'il n'a pas tous les moyens, mais bon, enfin, c'est assez difficile comme cela. Donc, ils peuvent arriver simplement, ou bien qu'ils fassent une certaine pédagogie, quoi, quand ils arrivent, qu'ils parlent assez clairement avec les uns les autres, qu'ils cessent de vouloir donner l'impression d'être trop riches. Bon, évidemment, dans le contexte où nous vivons, et les maisons ne sont pas toujours très bien tenues. S'il y a des secteurs où notre société pèse énormément, c'est le secteur de l'habitat. On ne soigne pas les habitats. Quelqu'un disait que les Congolais ou les Kinas vivent pas très... Enfin, les habitats de notre milieu, c'est pas très loin. C'est pas moi des étables, des poulaillers, tout ça, parce que on n'arrange pas assez les choses, c'est bien. Bon. Mm-hmm. Eux qui sont habitués dans un milieu où l'habitat est bien soigné, quand ils arrivent ici, ils n'ont plus... Ils
ont plus envie de rester...
Donc, ils ne s'adaptent plus dans un milieu sale, et trop pauvre, misérable, et ils sont obligés d'aller habiter des hôtels et des flats qui se construisent ici et là. Actuellement, il y a même un système des maisons, des gens qui sont de l'autre côté qui construisent leur maison pour que ceux qui arrivent, qui habitent là-bas, donc on arrange le cadre, tout ça. Donc, s'ils peuvent commencer, eux, à arranger le cadre, disons, de leur propre famille pour que les infrastructures soient bien et qu'ils viennent habiter ces maisons familiales, ce serait déjà une petite pédagogie, une petite leçon qui passerait dans le mental des uns des autres pour qu'ils comprennent que, bon, c'est aussi des gens comme tout le monde, qu'il arrive le moment où il peut manquer de l'argent, il arrive le moment où il peut se fâcher, etc. Donc, il y a cet élément-là à prendre en ligne de compte. Et il y a également une autre dimension de la vérification. Ceux qui sont à l'étranger se font prendre au piège facilement à ce qu'on appelle ce bon mentir qui vient de loin.
Mmh.
Alors, quand ils reçoivent des demandes d'aide, ils souffrent directement et ils ont tout de suite envie, ils ont pitié des autres, ils ont tout de suite envie d'aider.
Ouais.
Mais beaucoup de fois, puisqu'ils ne vérifient pas ces informations, ben, ils se font prendre beaucoup de fois
par des petits frères et petites sœurs qui
disent
leur tirer un peu de
ça, qui disent que bon, la pauvre mère
est malade,
oui, la vieille mère est malade, ou le papa est fortement malade, il faut envoyer ceci, il faut envoyer cela. Ben, vous voyez, quelqu'un qui a été élevé par cet homme-là ou cette femme-là, il a peut-être parfois été envoyé en Europe par cette personne dont on dit qu'elle est malade, mais il part partout, il va même prendre des...
Il va s'endetter.
Oui, il va s'endetter, ça, on ne dit pas. Quand ils envoient cet argent-là, et quand ça, c'est des sources de dettes, il est, je crois, quand même intéressant et prudent de dire à ceux à qui on envoie cet argent-là, ce n'est pas de l'argent que j'avais, j'ai dû m'endetter pour soulager ceci, cela. Donc, pour qu'ils comprennent, il faut qu'il y ait cette communication entre eux et nous ici, afin que nous soyons en mesure de nous comprendre. Sinon, ben, on va continuer à leur faire peser, à faire peser sur leurs épaules toutes nos souffrances, mais pas seulement toutes nos souffrances, peut-être aussi, pour la plupart des cas, nos exagérations, parce qu'il est déjà noté que beaucoup de demandes ne relèvent pas d'abord du besoin primaire, peut-être même pas beaucoup aussi du besoin secondaire, mais c'est des besoins tertiaires. Fête de collation, fête de ceci, des
mariages,
c'est des choses comme ça qu'on sollicite. C'est pour des raisons comme ça qu'on sollicite beaucoup d'aide de l'autre côté. Et dès lors qu'eux ont compris que c'est des besoins tertiaires, alors on commence à mentir. Donc on a en réalité comme besoin, par exemple, de s'acheter un habit. Mais on sait que si on lui demande, on lui dit que c'est pour un habit, il ne va pas donner. Alors il faut trouver un besoin primaire ou un besoin urgent pour mettre la personne qui reçoit la demande dans les étapes psychologiques telles que
obligé de
donner dans l'urgence et sans vérification. Pourtant, quand une demande est urgente, parfois on ne demande pas, donc on ne pose pas la question, on panique, et puis tellement qu'on est dérangé, et tellement que eux là-bas croient toujours que notre souffrance ici est exagérée, et pourtant quand ils arrivent ici, ils trouvent quand même que les petites buvettes de coin là, c'est rempli de gens. Donc ça dit, nous ne sommes pas toujours exagérément pauvres, mais seulement que nous utilisons mal ce que nous avons comme argent déjà. Il y a un problème de manque d'argent, bien sûr, mais on ne l'est pas à l'excès, sinon on serait déjà mort.
Mais quand on l'a, on l'utilise mal.
On l'utilise mal et on veut continuer à entretenir cette vie des gens qui vivent au-delà vraiment de leurs moyens et qui n'ont pas la discipline de l'utilisation de l'argent. Ouais, donc.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Galimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocafé.net et demandez une chanson, et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicaces@radiocafé.net.
Congolais de l'étranger, comment faire face aux demandes excessives d'aide des familles? On en parle aujourd'hui avec M. l'abbé Marcos Bindungwa, docteur en philosophie et auteur de plusieurs publications sur les problèmes sociaux. Un auditeur en ligne, Ngindu Kalala de Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. Moi je voulais un peu appuyer et intervenir sur ce que M. l'abbé disait tout à l'heure là. Je crois qu'il y a des aspects, des choses qu'il faut souligner.
Oui.
Le premier aspect est que, en principe, tout Congolais qui arrive à l'étranger, il veut toujours montrer qu'il vit mieux alors qu'il ne l'est pas. Donc M. l'abbé l'a souligné et là, je voudrais insister sur un aspect très important. Oui, imaginez-vous que quelqu'un qui arrive à l'étranger, et dès qu'il a... Moi, j'ai vu là-bas, ça fait 26 ans que j'ai vu en Europe.
Oui.
Dès qu'il a un petit job, on peut l'aider par le moyen, autre, il arrive à faire un petit job, il a au moins 1 000-1 200 euros par mois. 1 000-1 200 euros par mois pour attraper une voiture, ce n'est pas un grand problème, puisque si vous travaillez, que vous avez les documents, vous pouvez prendre les voitures à crédit. Là-bas, il y a le système de crédit, c'est plus simple. Mais quand vous avez la voiture à crédit, vous devez la payer 300 euros par mois.
Oui.
Et si vous avez un appartement, vous payez l'appartement 500-600 euros par mois. Imaginez-vous qu'il y a des services, donc l'eau, courant, électricité, ou bien le téléphone, le gaz que vous devez payer. Où est-ce qu'il va trouver l'argent pour aider les gens ici? Ça, c'est un aspect très important que les gens ne s'imaginent pas. Ils croient que quand on est en Europe, on vit très mieux, alors que c'est le contraire. Moi, je suis là, ça fait maintenant 26 ans. Ok?
Oui.
Deuxième aspect qu'il faut voir, c'est l'aspect ici. Il faut qu'on s'organise ici, que l'État s'organise pour créer l'emploi. Que les Congolais soient compétitifs. Le Congolais n'est pas compétitif sur le marché d'emploi. Il y a beaucoup d'activités ici qui peuvent régénérer des recettes ou bien qui peuvent régénérer de l'emploi et de l'argent, mais les Congolais ne veulent pas travailler ici. ils sont tournés vers l'étranger. Moi-même, j'ai créé beaucoup d'activités ici. Aujourd'hui, je vous dis bien, j'ai fermé certaines activités-là, puisque la plupart ne voulaient pas travailler.
Oui.
Alors, à ce moment-là, nous devons nous en prendre à nous-mêmes.
Alors, M. Mindou, vous dites que vous avez vécu en Europe pendant 26 ans.
26 ans, et je suis rentré ici il n'y a pas longtemps, ça fait 3 ans que je suis là, 5 ans plus ou moins. Je donne cours ici aux universités.
Oui.
Et je travaille aussi quelque part pour le gouvernement.
Mais le problème,
à l'étranger, je donne aussi cours à l'université.
Oui, mais le problème, c'est vous, les Congolais de l'étranger, qui vous entretenez une image, un mythe. Vous faites souvent croire à vos frères rester au pays, que vous êtes bien, vous vivez bien, et quand vous revenez au pays, vous vous amenez avec beaucoup de biens à distribuer à tout le monde de la famille.
Je suis juste à fait d'accord.
Allô, M. Nguindou? Dommage, sûrement, il y a eu un problème. Alors, M. Lavé, un commentaire par rapport à ce qu'il a dit.
Ok, ça fait bien que des gens qui ont fait cette expérience de l'Europe pendant longtemps et qui ont décidé de revenir ici, parce que ça, j'ai constaté aussi, la plupart de ceux qui sont là ont presque levé l'option de ne pas finir leur vie de l'autre côté.
Mmh.
Ils s'arrangent toujours pour revenir. Comme pour dire, quand des gens qui sont partis reviennent, et ça doit donner des lumières à nous autres qui sommes ici pour que nous comprenions que l'endroit le meilleur vraiment pour nous, c'est ici et ce n'est pas là-bas, parce que
on est mieux chez soi.
Oui, si c'était vraiment là-bas, ces gens-là ne rentreraient jamais. Donc ce n'est pas seulement lui, beaucoup de gens sont en train de rentrer et beaucoup de ceux qui sont là ont déjà décidé de commencer à revenir progressivement parce qu'ils se sont rendus compte, ça prend beaucoup de temps. Que parfois on travaille, on peine, mais on ne reçoit pas là-bas l'équivalent. Donc, ce serait mieux de revenir ici pour essayer à la fois d'aider le pays ici à aller de l'avant, mais en même temps pour se retrouver dans sa peau, respecter comme tel dans son pays. Donc, c'est des très bons témoignages et par rapport aux deux contributions qu'il apporte, ben, je les soutiens comme il soutient d'ailleurs ce que je suis en train de dire.
Mm-hmm.
Donc, les Congolais de l'autre côté doivent apprendre à être vrais par rapport à ce qu'ils vivent. Parce que c'est leur tendance à vouloir sauver les apparences, c'est Alexis, qui nous induit, nous ici, en erreur.
Oui.
Il parle des crédits. Et pour quelqu'un qui travaille de l'autre côté, on est capable de recevoir beaucoup de crédits. Il y a des maisons qu'on a à crédit, il y a des véhicules qu'on a à crédit.
Mais à un moment, ça vous coince, hein? Trop de crédits.
Oui, ça.
C'est une corde au cou.
Si, c'est une corde au cou, mais ça, ils vont pas vous le dire. Et quand ils vous envoient des images de leur maison, ils disent pas que c'est une maison que j'ai prise en crédit et ça coûtait autant.
Oui.
J'ai déjà payé autant et chaque mois je paye autant et ça finira. Il y a des crédits de 20 ans, imaginez-vous.
Oui.
Pour la société occidentale, quand vous travaillez et que on est sûr de vous et que on sait que vous pouvez travailler pendant, par exemple, 40 ans, donc vous serez opérationnel pendant 40 ans. Si vous demandez un crédit de 15 ans, on va vous l'accorder parce que vous êtes capable de travailler pendant 40 ans. Donc, c'est des choses comme ça.
Mmh.
Il y a des véhicules. Des véhicules vraiment des véhicules neufs et des nouvelles séries qui coûtent cher. Mais tout ça est pris à crédit. Mais quand on envoie des images ici à Kinshasa, au pays, on ne dit pas que ce véhicule-là, c'est un véhicule que j'ai pris à crédit.
Mmh.
Et ça donne l'image ici que, bon,
pourtant
il est capable d'acheter une maison, une villa comme ça, telle que nous avons vu dans les images.
Mmh.
Quand il est capable de s'acheter un véhicule comme ça au même moment et tout ça, donc ça signifie qu'il a de l'argent à l'excès. Alors pourquoi on ne veut pas lui demander?
Lui demander. Voilà. Jerry Mido nous appelle depuis Bandonouville. Bonjour Jerry.
Oui, bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Bon, je salue d'abord l'invité. Je pose la question à l'invité de savoir, pour remédier à tout cela, donc nous qui se trouvons ici au Congo ou à d'autres pays, avec nos parents ou bien la famille qui se trouve à l'étranger, l'invité peut nous dire quoi pour ne pas demander l'argent à tous ceux qui se trouvent à l'étranger.
Ouais, et qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
Donc, pour ne pas demander l'argent, donc si vous êtes ici au Congo, par exemple, et vous demandez l'argent à votre blanc qui se trouve à l'étranger, monsieur, envoyez-moi l'argent. Donc, pour remédier à tout cela.
Oui.
Donc, qu'est-ce que l'invité peut nous dire?
Ah oui, Marcus. Oui, ok. J'aimerais terminer d'abord avec Ngindou pour ne pas faire de con à l'âne. Donc, j'ai dit, il faut que les Congolais de là puissent être vrais, qu'ils puissent présenter la situation qu'ils vivent et pas donner des milliers d'informations qui induisent les autres en erreur. Et par rapport à sa deuxième proposition de l'État qui doit arranger les choses pour favoriser le sens du travail, ça rejoint pratiquement ce que Géry demande. Donc c'est cela qu'il faut. Donc la proposition de M. Ngindou donne déjà des lumières.
Mais est-ce qu'il faut plutôt attendre de l'État où les gens aussi peuvent créer de l'emploi?
Oui, donc il faut que nous apprenions à créer de l'emploi, mais il est quand même de la première responsabilité de l'État. C'est l'État qui organise nous comme population. C'est là justement la faute de nos États ici. Si de notre côté en Occident, ils sont en train de faire des grèves et tout ça, ils marchent, ceci, cela, et quand ils apprécient le projet de société des candidats dans différents postes par rapport à l'emploi, c'est parce qu'il est du devoir de l'État à qui nous tous comme peuple, en tant que démocratie, nous avons aliéné notre liberté, notre autonomie, pour que l'État puisse nous organiser la vie d'ensemble, pour qu'on aille de l'avant. Il est de la première responsabilité de l'État. Il ne faut pas qu'on puisse l'oublier ici, chez nous, dans nos pays.
Mm-hmm.
On oublie cette responsabilité.
Si l'État n'est pas en mesure de le faire, les gens peuvent créer eux-mêmes de l'emploi.
Oui, d'abord,
dans le contexte actuel,
il faut dire que si l'État n'est pas capable de le faire, ben, si ceux qui tiennent ces responsabilités ne sont pas capables de le faire, et qu'ils s'examinent eux-mêmes pour voir s'ils sont captés, s'ils doivent rester là-bas ou s'ils doivent cesser d'être là.
Oui.
Je crois que quand vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas responsable. Quand vous êtes incapable de faire ceci, cela, qui est de votre devoir, eh bien, ailleurs, on démissionnerait. Donc ça, c'est une petite ouverture pour eux, mais quand on est dans une difficulté où on est coincé, on ne sait pas aller de l'avant, bon, toute personne qui se respecte, toute personne habite, essaye de créer un peu d'emploi pour survivre. Donc c'est comme ça qu'il y a des petits commerces ici, là, ici, et non, vraiment.
Voilà.
La débrouillardise chez nous,
c'est informel, là,
oui,
c'est très, très, très développé.
C'est.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end solaire avec moi, samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Congolais de l'étranger, comment faire face aux demandes excessives d'aide des familles? Kalima nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, c'est Kaleba qui vous appelle à partir de Goma, Kaleba.
C'est Kaleba à partir de Goma, excusez-moi, allez-y.
Oui, je voulais seulement dire à l'invité quelle est maintenant l'adresse de formule pour éviter, pour décourager ces gens-là qui sont toujours ici, et ceux-là qui vivent en Europe, qui sont ceux qui sont ouverts. Comment, quel est le conseil qu'il peut leur donner pour essayer un peu de mettre ça, c'est-à-dire des idées là dans le sens de la contraire.
Allez, Marquis.
Oui, merci pour la question. C'est tout ce que nous sommes en train de faire à travers des émissions comme ça. Donner un autre son de cloche de la situation de nos frères qui sont en Occident pour que les uns et les autres sachent que ce n'est pas toujours le bonheur. Donc, si il a bien suivi l'émission, depuis le début, nous avons commencé par dire qu'est-ce que eux qui sont là-bas doivent faire. On a dit rapidement, qu'ils cassent les mythes de la bourgeoisie, qu'ils soient vrais, qu'ils expliquent clairement leur situation comme il se doit, qu'ils vérifient les informations, et j'allais même ajouter qu'ils refusent aussi parfois des aides quand ce n'est pas nécessaire. Donc je pourrais dire ça, c'est pour eux, mais par rapport à nous qui sommes ici, de la même manière, nous devons aussi apprendre à casser ce mythe-là, parce que de plus en plus, des voix s'élèvent pour expliquer que l'Europe ce n'est pas le bonheur.
Comme c'est pas le paradis.
Oui, comme c'est pas nécessairement le bonheur. Comme prêtre, de l'autre côté, quand je suis allé pour mes recherches, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, et c'est ce qui a motivé quelquefois les articles que j'ai publiés dans la revue L'Avenir pour essayer de sensibiliser les jeunes surtout, parce que c'est une revue des jeunes. J'ai rencontré des Congolais qui nous disent, qui m'ont dit, ben, monsieur l'abbé, vous qui enseignez là-bas, parce que nous savons que les Congolais, plus trop, ils croient trop à l'homme de Dieu. S'il vous plaît, dites à nos frères qui sont là-bas, que nous aussi, nous avons des problèmes, nous aussi, nous avons des familles, nous aussi, nous avons des soucis, comme eux. Et c'est parfois des soucis plus rudes que eux.
Ouais.
Et ici, parfois, on vit isolé. Vous devez gérer tous ces soucis-là dans un milieu qui vous est hostile. Vous, là-bas, quand vous avez des problèmes, vous avez de la solidarité parce que vous êtes dans votre tissu familial, oui. Vous avez des gens et des
autres
à qui vous pouvez aller parler, exposer ceci, cela. Mais nous qui sommes ici, quand vous avez des problèmes, parfois vous craquez parce que vous êtes tellement isolé, vous êtes vous-même avec votre petit foyer et vous êtes dépassé. Dites-leur que nous avons aussi des problèmes par rapport à toutes ces demandes. On veut bien aider. On comprend la difficulté du pays. Mais seulement, nous demandons qu'il soit charitable. Et j'ai eu des circonstances où vous êtes avec des amis en train de parler. Quand ça sonne, et quand c'est Kinshasa, et quand c'est le pays,
il est mal à l'aise.
Avant même de décrocher le téléphone, vous sentez que la personne est mal à l'aise, elle est en dehors d'elle-même. Oui. Donc, vraiment, ça va très mal. Donc, nous avons déjà créé en eux des réflexes de stress, des malaises.
À cause des demandes d'argent.
Oui, à cause des demandes. Parce que la plupart des coups de téléphone qu'ils reçoivent, ce n'est pas pour leur dire bonjour.
Comment vous pouvez leur dire qu'on va vous envoyer un peu d'argent.
Non, c'est pour dire qu'il y a tel problème, envoyez ceci,
envoyez cela et tout ça. Denis Kabila nous appelle de Kananga. Bonjour Denis.
Bonjour monsieur le journaliste, c'est pas de Kananga, c'est à partir de Mbujimayi.
Allez-y Denis.
Bon, c'est presque une question que je peux dire, c'est que tout ceci est encouragé par ma paresse, parce que nous constatons que même les jeunes, et les vieux, et les adultes adorent bien se reposer alors qu'ils sont encore à l'âge de travailler. Qu'est-ce que vous pouvez, monsieur l'invité, conseiller aux jeunes et à la population de faire afin que la paresse diminue? Parce que ça, le plus grand problème. Si quelqu'un travaillait, il ne pouvait pas tendre la main à n'importe qui. Parce que c'est pas même sur la vie des Kinshasa, même en Mbujimayi. Il suffit de voir un patron qui passe à bord des... sa voiture, tout le monde crie cherchant à ce qu'on lui donne quelque chose. C'est pas seulement avec ceux qui sont en Europe, même sur place, c'est pas que il faut que vous interveniez, vous sensibilisez la population afin que la population ait la culture du travail et non pas la culture du repos, alors qu'on est encore à l'âge de travailler.
Merci bien Denis Kabila, monsieur l'abbé.
Oui, merci pour cette intervention Denis. Il donne lui-même déjà une solution. Enfin, pousser les gens au travail pour abandonner les réflexes de la paresse. Parce qu'effectivement, nous avons déjà, de par notre culture de solidarité excessive à l'africaine, créé beaucoup de parasites, beaucoup de paresseux. Vous savez, dans nos familles, il suffit qu'une personne ait réussi, mais on a l'impression que c'est toute la famille qui a réussi. Tout le monde baisse les bras,
oui.
Et c'est lui. C'est comme ça que...
C'est lui qui prend en charge toute la famille.
C'est comme ça que certains ont dit qu'en Afrique, c'est inutile d'être riche. Être riche, c'est s'exposer à mourir tôt, parce que vous aurez
le poids de la famille
sur tout le monde. Mmh. Et attention, quand vous deviendrez pauvre, après avoir tout donné, ce sont les mêmes qui vont se moquer de vous, et quand vous serez en difficulté, vous n'aurez pas beaucoup de gens qui viendront vous aider.
C'est bien
voilà, c'est bien dommage. Voilà, malheureusement, cette solidarité unilatérale qui veut que l'autre souffre pour moi, Mais on n'est pas prêt pour souffrir pour l'autre. Non, non, on n'est pas prêt. Donc, je crois que c'est une mentalité qu'il faut corriger.
Mmh.
Et l'autre mentalité, c'est, ça va dans le même sens, mais c'est vraiment la tendance à vouloir penser que ma vie peut être prise en charge par une autre personne.
Mmh.
Que l'autre est obligé de m'aider parce que nous sommes frères. On n'est pas obligé.
La
seule difficulté, enfin, la grande différence qu'il y a entre d'autres cultures, par exemple occidentales et nos cultures à nous, c'est cela. Eux, ils sont individualistes, et en tant qu'individualistes, ils savent que chacun doit prendre sa vie en charge lui-même, sans compter sur les autres. Ils ont tellement développé cette mentalité.
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Oui, tellement développé cette mentalité qu'il y en a qui refusent des héritages, il y en a qui refusent des aides. Déjà jeunes. Mais chez nous, vous avez des vieux, ou des gens, comme dit Denis tout à l'heure, en âge de travail, mais qui sont là en train d'attendre, oui, d'attendre. Mmh. Ils sont contents de dépendre des uns et des autres, et pourtant, ce n'est pas digne. Donc, ce réflexe de travail est important. Mais
voilà, affaire à suivre, monsieur Lavé. On s'arrête là pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes, monsieur Lavé Marcus Vinoua, docteur en philosophie et auteur de plusieurs publications sur les problèmes sociaux. Merci et à la prochaine.
Ok, à la prochaine. Merci.